Cette semaine, dans le balado, on tente de séduire des cheerleaders, on trouve la paix dans un petit village italien et on se bat pour de meilleures conditions de travail. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff.
Allô. Mais ces trois choses-là pourraient arriver en même temps.
Ça pourrait faire.
Tu pourrais te battre pour des meilleures conditions dans ton petit village italien en essayant de séduire des pom-pom girls.
T'sais. Bien sûr.
Le ultime crossover. Je sais pas, ce serait quoi le ton final du film. On dirait que ça n'a pas le choix d'être une comédie, mais.
Avec cette prémisse-là, je pense que tu n'aurais pas le choix.
Un documentaire.
Donc, premier jour de septembre aujourd'hui.
Fin de la période estivale.
Oui. Honnêtement, je pense qu'on ne s'attendait pas à grand-chose cette semaine, mais finalement, on était assez étonnés. On a bien hâte de vous en parler un peu plus tard de ces sorties de la semaine. Avant, un petit tour d'horizon. Petite actu qui a retenu ton attention.
Oui, mais là, c'est la fin de la période estivale. Écoute, j'ai comme pas pensé de noter tout ce qui s'est passé dans les box-office américains, mais je suis pas mal sûr que Barbie a fini numéro 1.
Tout à fait.
Mais je sais pas s'il a fini en marquant des records. Pense pas les plus gros, là. C'est pas le film qui a fait le plus d'argent ou des affaires de même, mais quand tu vas chercher des trucs nichés.
De ce que j'ai vu passer cette semaine, c'est que c'est le film qui a généré le plus de revenus dans l'histoire de Warner. Okay, au box-office, on inclut le box-office international. Donc, il a détrôné, je pense, c'était Harry Potter.
Ouais, le deuxième volet. Là,
effectivement.
Ouais, là, au mondial, il est rendu. Au global, 4, c'est ça. 14e, je pense, ou 13e. Là. Mais là, c'est ça, il a dépassé Harry Potter. Puis c'est ça, c'est le plus haut film. Je regardais toutes les autres avant, c'est Universal puis Disney.
Oui. Et il y en a genre 5 que c'est James Cameron là-dedans, genre.
Pas 5, mais 3. Titanic, les deux Avatar, là, exact. Puis les autres, c'est des Marvel. Puis là, pas loin, tu te mets à avoir des Pixar. Puis des. Je sais pas. Là. Je pense que la Belle et la Bête, mettons, qu'il avait refait, je pense qu'il est ça assez haut aussi. Puis voilà. Fait que. Ouais.
Bref. Donc, il devrait de toute manière détrôner Mario probablement d'ici. Ou grand dans le mois de septembre.
Ouais,
en tout cas,
c'est ça. Il y a certains gauges, certains échelons qui vont être faciles ou qui devraient être atteints. Mm-hmm. Mais le fait qu'il soit banni dans plusieurs pays et tout, là, Barbie, on ne pourra pas se rendre numéro 1. Là. Il a fallu qu'il démarre vraiment plus fort. Mais je ne sais plus si le top 10, mettons, est réalisable ou à un moment donné, il manque comme 450 millions. Puis là. En 6-7e semaine, ça commence à être tough. Là.
J'ai lu que c'est très dur en Asie parce que c'est pas des marchés traditionnels où la poupée Barbie est connue comme tant. Fait que je sais que les résultats étaient un petit peu
décevants
là, pour le studio.
Des fois, il arrive ça, exact. Tu regardes les chiffres de Megalodon 2 ou des Transformers, puis tu fais nous autres, c'est sûr qu'on va faire ça. Regarde ce qu'on a fait aux États-Unis, puis c'est comme film l'intéresse pas pantoute. Ça arrive, nous autres, même. Des films français là, qui cartonnent en France, puis arrivent ici, puis ils ont de la misère à avoir des écrans, puis les gens sont pas au rendez-vous du tout. Là.
Fait que somme toute, j'ai vu passer que ça a été un excellent été pour les cinémas. Je pense qu'on a atteint les chiffres d'avant la pandémie, 2019.
Ouais, à peu près. Pour ce qui est de l'été, là, de mémoire, c'est que les meilleures années, là, genre entre 2010 puis 2019, c'était comme du 4,4 milliards pour la période estivale. Là, je pense qu'on est, sous toute réserve, à peu près à 3,9. Fait qu'on a battu 2017, qui avait étonnamment été une mauvaise année. C'est sûr qu'on a battu 2020, 2021, 2022. Mais c'est ça. On est comme arrivé à un plateau de faible année par rapport à la dernière décennie, mais on revient dans les chiffres. Mm-hmm. Je regardais aussi. Les autres années, justement, là, des 2015-2014, il y avait à peu près 600 sorties. C'est énormément, mais ça inclut plein de films qui jouent dans trois écrans pendant une semaine. Puis c'est pas 600 Barbie, là, tu sais.
Mais même au niveau des gros blockbusters, je me rappelle, il y a des années, tu sais, à chaque semaine, t'en avais deux, trois.
Ouais, une comédie, puis un film d'action à chaque semaine, puis tout. Là, je pense qu'on n'est même pas 400. Fait que peut-être que si t'ajoutes ces 200 autres films-là qui sont pas tous. Qui valent pas toute la peine, on le pognerait. Mais en même temps, c'est peut-être une bonne chose qu'il y en ait une quantité plus raisonnable. Là.
Ça laisse l'espace un peu à tout le monde.
Oui, puis ça devrait pas aller en s'améliorant tout de suite dans les prochaines années, parce qu'avec tout le backlash de la pandémie qui a retardé des productions, mm-hmm. et là, la grève des scénaristes et surtout des comédiens, ben là, les prochaines années aussi, on va peut-être être plus... je sais pas si c'est qualitatif, mais en tout cas, au niveau de la quantité, il va en avoir un petit peu moins de gros blockbusters, comme par exemple Equalizer. Là, ça fait une couple de semaines qu'il n'y a pas eu de film d'action. Mégalodon, mais il s'est passé quasiment un mois. Là. Fait que, ouais. mon analyse rapide basée sur ce que j'ai vu cette semaine, il y a au Québec Le Temps d'un été qui a fait plus de 2,17 millions de dollars et qui est encore à l'affiche. On dit, bon... On peut jouer sur les mois, sur les semaines, que c'est le plus gros succès au Québec depuis juillet 2019, en fait, depuis Menteur. Fait que si tu considères les, mettons, trois premières semaines de Menteur puis que t'es tasse, parce qu'un Menteur a fait genre 6 millions, mm-hmm. ben là, c'est le film qui a eu le plus de succès depuis. T'sais. Fait que ben, on prend les victoires où on les a, mais, ouais, mais oui, c'est positif. Là. Je sais pas, l'année prochaine, il va y avoir un autre Trudgy. On recommence à sortir des gros films... un peu du même type, on va peut-être recommencer à avoir des 3, des 4 millions au box-office si le public est au rendez-vous.
Non, tant mieux, c'est une excellente année pour le cinéma québécois et je pense que ça va faire du bien à l'industrie et à tout le monde là, que les gens retournent voir les films de chez nous.
Écoute, je ne sais pas si tu l'avais mentionné, grosse nouvelle qui est tombée cette semaine, le Taylor Swift Eras Tour. Ce qui est comme un concert filmé, mm-hmm. mais qui n'est pas présenté comme, c'est-à-dire des concerts événements, genre un soir seulement, venez le voir au cinéma. Le film va sortir le 20 octobre, pour l'instant que dans les cinéplex. Je crois que c'est eux qui assurent la distribution.
Ouais.
Puis, mais ils jouent comme 3-4 fois par jour, là, comme un film régulier, mais qui dure 2h45. Là, un bon spectacle. J'ai aucune idée s'il y a comme une mise en scène de cinéma au travers ou si c'est juste...
J'ai pas vu d'image non plus.
Je pense que ça va venir au fil du temps.
Ouais.
Là, peut-être que les autres cinémas indépendants vont être capables de l'ouvrir les semaines subséquentes. Là. Aucune idée. Mais ce que ça a fait, c'est que ça a forcé The Exorcist à devancer sa sortie.
Ben oui, le démon a eu peur de Taylor.
Les anges sont plus forts que les démons, voilà.
Mais oui, effectivement. Donc, The Exorcist Believer prendra l'affiche une semaine plus tôt que prévu.
Mais il devait même sortir le 13. Fait qu'il sortait une semaine avant Taylor Swift. Puis ils ont décidé de devancer quand même pour avoir deux bons week-ends, j'imagine, avant. Ce qui est quand même surprenant à 2 mois de la sortie, 1 mois et demi, de devancer d'une semaine comme ça.
Oui, quand même. Puis écoute, puis pourtant, est-ce que c'est le même public? Je sais pas. Moi, je pense pendant que peut-être les plus vieux ou.
Je pense que c'est la même tranche d'âge, ouais, peut-être. Là. Puis à chaque fois que tu sors un film d'horreur, même si l'exorciste original a 50 ans, puis tu penses pas que c'est tout du monde de 77 ans qui vont aller voir
non,
le film.
Non, probablement pas, mais vu le sujet, je sais pas. Je trouvais ça curieux qu'ils ont eu peur quand même de Taylor Swift comme ça. D'ailleurs, les billets sont en pré-vente, là, je pense, puis ça s'en va comme des petits pains chauds des premiers jours. Là, c'est
mais en même temps, ce qui doit se vendre beaucoup, c'est vendredi soir puis samedi soir, puis il y a plein de projections d'après-midi et tout. Ça va être un succès, cette part-là. Là. Ça va faire un week-end de 75 millions.
Ben,
mais...
Oui, probablement que ça reste.
Mais c'est pas justement limité. Comme, il y a jeudi soir, il y a 300 places. That's all, folks. Là.
Mais c'est à l'image de sa tournée. Tout le monde s'arrache Taylor.
Ben en plus, au Canada, elle est venue uniquement à Toronto.
Pas encore, mais oui.
OK, c'est ça. C'est à venir, mais oui, bref, elle n'est pas. Il n'y a pas de Montréal, pas de Québec. Ben,
non.
S'il n'y a pas de Montréal, alors qu'il y a du Québec. Là. Pas de. Tefer Mines.
Ce serait étonnant. pour ma part, j'ai vu ça passer. Je ne sais pas si ça avait été officiellement. Confirmé, mais en tout cas, moi, c'est la première fois que je voyais cette nouvelle-là pour un remake de Highlander, film culte avec Christophe Lambert.
L'épée, là.
Ouais, c'est ça.
Il ne peut y en avoir qu'un.
Oui, okay. Tout à fait. Quand même un film culte, puisque À l'époque, c'est un film de 86 qui était vraiment un film à petit budget là, qui était un peu kitsch, surtout avec l'utilisation en plus de la musique de Queen. Ouais, c'est ça. Mais ça a connu, je pense, un très grand succès en location. On a même eu quelques suites, une série de télé, peut-être même plus qu'une. Là, fait que c'est devenu comme
c'était
tout
avec
un univers.
C'était avec Christophe Lambert. Hein,
ouais, c'est ça. Puis Sean Connery qui avait un petit rôle qui jouait son mentor. Ouais, c'est quand même Chad Stahelski de John Wick va réaliser cette nouvelle version. Et Henry Cavill jouera le rôle de Connor McLeod, cet Écossais, justement, éternel.
OK. On le met pas si jeune que ça. Là.
Non,
effectivement. Un quarantenaire.
Ouais, ben, en même temps, c'est un personnage qui a comme 500 ans là, dans l'histoire, à peu près. Fait que ça prend un certain vécu. Là, ça va. Donc, très curieux de voir cette nouvelle version-là. Je pense que ça peut être intéressant.
Ça doit être 87 North, là, sa compagnie de production, Stahelski, qui produit.
Probablement, ouais, c'est ça. Donc,
je me demande s'il va aller vers une esthétique ou une facture visuelle différente un peu des films qu'il fait. Nobody, John Wick, c'est tout très sombre, très... Je sais pas si c'est le bon terme, mais quand même cru, là, je trouve, la pluie et ces affaires-là. Je sais pas si on va aller quoi d'un peu plus fantastico... compte un peu là, dans même le visuel, la manière.
Oui, ben dans la version originale, la plupart des pop, je pense, tous déroulés à New York, de mémoire.
Okay. J'ai jamais
donc,
vu. Je sais que c'était devenu une risée parce qu'il y a eu comme 3-4 films. Puis,
Oui, les suites étaient vraiment mauvaises. Là, mais le premier
un petit charme. Mais Christophe Lambert, c'est pas reconnu comme un grand comédien.
Non
là,
plus, effectivement. Ouais.
Je me souviens plus de Mortal Kombat, mais c'est pas non plus un grand film. Fait que c'est rien pour l'avantager.
Donc, pas de date encore. C'est en gestation, en tout cas en pré-prod.
Ils peuvent pas tourner.
Non, ben effectivement, tout à fait. À suivre pour cette suite-là.
J'ai pas d'autres nouvelles.
Moi non plus.
La bande-annonce peut-être de la semaine. Un premier teaser pour Ferrari. Qui prend l'affiche, je pense, le 25 décembre, 22 décembre.
Oui, 25.
OK, 25.
Jour de Noël.
Nouveau film de Michael Mann, qui, je ne sais même pas c'était quoi son dernier, je me souviens de...
Hey, non plus son dernier,
c'est sûr qu'il
il y a comme une baisse de régime, tu sais, dans les 10 dernières années.
Il avait fait genre Miami Vice, puis des choses comme
ouais.
ça.
Mais moi, la grosse époque, c'est les années 90, où il a fait trois de mes films préférés, Le Dernier des Mohicans,
oui.
Heat, puis The Insider.
OK, The Insider, je ne connais pas. J'ai pas vu. C'était avec
Pacino, puis Russell Crowe.
Russell Crowe, okay.
C'est sur l'industrie du tabac et tout ça, là, fait que c'est super intéressant.
Okay, j'ai jamais vu. Je checkerai ça. En tout cas, premier teaser, une seule ligne de dialogue à la fin, une seule phrase, sinon c'est que des bruits de chars. Il a l'air d'avoir beaucoup de courses. On comprend qu'il y a, je sais pas, il y a plein de drames dans la famille Ferrari, fait que un décès.
De ce que j'ai lu, c'est que ça va se passer sur 3 mois, en fait,
okay.
en 1957, plus précisément, où Ferrari ont de gros problèmes financiers, puis l'intrigue va être sensiblement... autour d'une course qui est la Mille Miglia, qui est une vraie course de 1500 km en Italie. Puis c'est une course où des pilotes décédaient. Là. Il y a des accidents, c'était assez tragique. Puis je pense qu'effectivement, un des pilotes de Ferrari va être impliqué dans un incident, là, dans le parcours et tout ça. Fait que je pense qu'on va jouer sur cette trame-là, tout en exploitant évidemment la vie de Ferrari personnelle, familiale, là, qui évidemment, on sait qu'il y avait une amante et tout ça, donc tout va peut-être exploser pour lui ou pas.
Ben, ça avait déjà été annoncé, ça. C'est Adam Driver qui va personnifier Enzo Ferrari.
Oui, c'est ça. Donc, retour aux sources italiennes pour Driver, qu'on avait vu dans House of Gucci avec son drôle d'accent.
Mais y a-tu du sang italien?
Je pense pas. Je pense que c'est le go-to guy quand on veut un Italien américain. Mais
il porte bien son nom pour faire des films de genre.
Ben, voilà. Ça, c'est sûr.
Penelope Cruz, qui joue sa femme. Shailene Woodley joue peut-être sa maîtresse.
Sa maîtresse, c'est ça. Ouais.
Puis là, une couple d'autres personnes. Tu vois, ça me donne bon espoir que ça soit juste un segment. Je pense que c'est ce que je préfère, les biopics. Là,
qu'on le voit grandir.
Ouais, puis tout. Puis là, avec un peu de de-aging, un peu de rajustement. Je trouve l'acteur jeune qui ressemble, puis tout, ça me saoule quand même. Là.
Ouais.
Fait que je trouve ça plus intéressant, juste un moment comme ça, clé, puis tu sais.
Tout à fait.
Sur le reste, là,
en tout cas, ça a l'air vraiment spectaculaire pour les courses de voitures et tout ça. Michael Mann, qui est vraiment... Très, très un réalisateur là, de métier, un vétéran solide. Là,
contrairement à ce qu'on vient de voir dans Gran Turismo, où c'est pas des courses de Formule 1, là, des espèces de voiture semi-décapotable, que tu as un casque puis des lunettes de ski, là, un peu. Là,
oh,
pis,
oui, c'était des vrais.
Très Tintin là, comme voiture, genre. Là, mais, voilà,
c'est des vrais casse-cou, ces pilotes-là. C'est ça le mot que je cherchais. Puis d'ailleurs, ils étaient projetés à la Mostra de Venise et les premières critiques, il n'y a pas d'embargo à rien. Fait qu'elles sont déjà sorties. Puis on parle vraiment d'un film.
Ah,
là,
ben c'est le fun. Ça veut dire qu'ils sont confiants du film.
Oui, oui, c'est
tout,
ça, tout à fait. Ouais.
Puis ouais, d'ailleurs, c'est parenthèse, il y a eu un. Driver était là, entre autres, je ne sais pas si d'autres sont là. Puis il y a eu comme une entente spéciale avec leur syndicat qui a comme, OK, on est en moins de pression, on ne le fait pas, mais vu que c'est la Mostra, c'est un gros film, tu as le droit d'y aller. Mais ils ne se gênent pas pour parler de la grève, justement, et tout. Puis comme il disait, c'est fou parce que le film est produit par Neon.
Ça ne vient pas d'un major américain. Donc
non, c'est ça.
A24 aussi, on comme des passes comme ça. Bon.
Mais c'est ça, c'est fou parce que ce que ça témoigne, c'est qu'en ce moment, dans les négociations et tout, les petits, plus petits producteurs et distributeurs sont en accord avec nous, nous supportent, puis eux seraient prêts à signer une entente, mais c'est les gros, c'est les Netflix puis toutes les autres affaires qui refusent de plier, puis c'est très bizarre. C'est ceux qui ont le plus d'argent qui ne veulent pas partager l'argent.
Ben
c'est
voilà,
classique.
Comme toujours,
ça rappelle Metallica avec la campagne contre Napster il y a 25 ans, là. Fait que, bref, voilà. Fait que c'est pour ça qu'il est là en train de présenter le film à Venise en ce moment. J'ai pas fait de topo de Venise non plus, là, quoi que c'est pas fini. Puis, mais tu sais, il y a plein de présentations de films comme ça qu'on va avoir plus tard et autres.
Mm-hmm.
Fait que ça se peut qu'il y ait une petite déferlante de bandes-annonces. Il y a le TIFF aussi qui approche, fait qu'il commence à montrer des bandes-annonces exclusives et des choses comme ça, là, de plus en plus. Fait que suivez vos réseaux sociaux pour ça.
Parfait. Alors, attaquons les sorties de la semaine. Moi, je vais commencer avec mon coup de cœur.
Ah, moi, j'aurais... OK. Ouais. Ben, je le sais, c'est quoi ton coup de cœur?
Okay.
On peut, c'est juste qu'il est plus... Moi, j'aurais commencé avec Richelieu. Moi, j'aime bien commencer avec les films québécois, surtout quand ils sont bons.
OK, ben allons-y, je vais te faire plaisir. Alors, Youhou! Richelieu de Pierre-Philippe Chevigny.
Ouais, écoute, ça, très poliment, petit film duquel on n'attendait rien. Bon, un drame intimiste québécois, là, ça s'en vient le 1er septembre. Hey, excellente surprise pour ce film-là qui met en vedette Marc-André Grondin, Ariane Castellanos et les autres moins connus, là, comédiens et comédiennes, beaucoup de comédiens latinos, guatémaltèques et autres. On va suivre justement le personnage de Castellanos qui, je pense, c'est son premier film, mais elle a joué déjà beaucoup à la télé,
qu'une
collègue me disait, qui joue le rôle et, dans le fond, elle est retournée dans son petit village. On comprend qu'elle a des problèmes d'endettement, des problèmes personnels avec son ex-conjoint. Puis, ça s'adonne qu'elle sait parler espagnol parce que son père était espagnol aussi, latino. Fait qu'elle est embauchée à l'usine de transformation, genre de maïs, puis alimentaire, pour justement faire le pont avec les travailleurs guatémaltèques puis l'administration québécoise, mettons, francophone. Puis c'est la première fois qu'il y a des travailleurs étrangers qui viennent là. Fait qu'elle est, bref, nouvelle à l'usine, puis sa job, c'est d'être le pont entre les deux. Puis rapidement, tu sais, elle se rend compte qu'elle n'a pas de pouvoir décisionnel, mais elle va découvrir un peu des injustices dans leur traitement, puis elle va se mettre un peu le doigt dans l'engrenage en essayant de régler ça, d'équilibrer un peu les conditions de travail, puis une forme de justice dans le grand capitalisme. Fait que, fin du synopsis, mais ce qui est bien, c'est que, oui, Grondin est super intéressant en tant que le jeune patron de l'usine qui a besoin de rendement puis de sauver de l'argent et tout, mais le film nous présente pas nécessairement comme un méchant. T'sais, oui, il a son type de caractère qui serait peut-être pas mon ami, mais tu vas vite comprendre que tout le monde a une pression qui vient de plus haut puis qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est juste systémique là-dedans. C'est pas les individus qui sont... tant que ça, de mauvaise foi, c'est juste que le système veut que...
Ils doivent obtenir un rendement et
ouais, c'est ça. C'est quasiment une vente pyramidale à sa façon. Il faut qu'en dessous, on t'en donne plus pour que tu puisses garder ta part puis en redonner en haut. Puis c'est ce qu'on voit beaucoup dans le monde agricole en général, là, qu'on entend parler des Monsanto puis des affaires comme ça. Là. Même si c'est du maïs, là, on tombe pas là-dedans, mais t'sais, on fait venir du monde de l'étranger qu'on peut payer moins cher pour faire des jobs de marde et très difficiles que personne ferait. Puis on les traite pas vraiment en les remerciant. On joue beaucoup sur « garde, si tu le fais pas, je te retourne dans ton pays puis j'ai pas d'argent. »
Et même eux s'exploitent entre eux aussi.
Ouais, c'est ça qu'on découvre, exactement. Ouais.
Qui est une réalité, d'ailleurs.
Je te passe la parole un peu.
Ah ben oui, écoute, je trouve ça un drame social super intéressant. Écoute, premier film quand même pour le réalisateur qui offre une qui nous montre une grande maîtrise, honnêtement, parce que le film est monté vraiment avec de longs plans séquences aussi. Fait qu'on laisse beaucoup d'espace à la caméra, aux comédiens. Fait que c'est une charge émotionnelle, une intensité quasiment qui revient rapidement dans le film, qui est intéressant à voir. Une excellente maîtrise de direction de comédien. Puis, écoute, c'est un sujet d'actualité. On l'avait traité sous un autre angle avec Les oiseaux ivres. On avait une histoire romantique. Là, on est vraiment dans la maltraitance. Donc, on a les conditions très difficiles de ces travailleurs-là. Mais écoute, c'est un film intéressant à voir. Et en fait, j'avais lu que ça fait une dizaine d'années qu'il travaillait un peu sur ce projet-là.
Okay.
Puis en fait, à l'origine, il voulait même que ce soit un documentaire. Il y a une espèce d'omerta dans ce monde-là, donc personne ne voulait parler de ces conditions-là.
Hors micro, on va lui dire des histoires, c'est mais ça. Quand c'est le temps de filmer et tout, il n'y a aucune industrie qui aurait voulu, pas de famille qui veulent se mouiller.
Ben non, c'est ça. Donc, il s'est tourné vers la fiction, mais tout est inspiré vraiment d'événements là, qui se sont déroulés. Puis il s'est même déplacé au Guatemala avec la comédienne pour rencontrer les travailleurs, parce qu'il ne voulait même pas parler au Québec, là, par peur de représailles. Donc, il les a rencontrés chez eux hors saison. Pour un film qui est vraiment bien écrit. Puis comme tu l'as dit, on apprécie les ondes grises aussi, parce qu'on aurait pu tomber quand même dans une certaine facilité.
Chercher le méchant, là.
Ouais, c'est ça. Coupable, puis, mais tu l'as bien dit, là, tout le monde est pris dans ce système-là, puis essaie de faire de leur mieux qu'ils peuvent. Puis, fait que c'est vraiment un très bon film à découvrir, puis, honnêtement.
Je trouve qu'il y a, qui est peut-être pas autant que Les Chambres rouges, là, mais il y a une bonne tension dans le film aussi, surtout une certaine scène. Puis c'est la manière qu'ils filment. Oui, c'est des plans-séquences, mais on a la caméra qui est très... au Castellanos est quasiment de tous les plans. La caméra est souvent sur elle. Même la personne avec qui elle dialogue est plus floue en fond. Beaucoup de réactions dans les visages. Puis Marc-André Grondin disait en entrevue que ce qui est le fun, c'est que tous ces petits plans-séquences-là, qu'on voit de moins en moins, on est de plus en plus en coupé. OK, je te filme là, je filme la réplique, je filme là. Après ça, je refais un montage croisé, des choses comme ça. Il dit que ça a ramené beaucoup de respect à la prise. Parce que les prises sont importantes, que même s'il y a une erreur un peu, on la continue, on la fait, puis c'est plus juste, bon, mais je vais te filmer 22 fois en train de dire ta ligne, puis au montage, je garderai la meilleure, puis tu sais, c'est comme, non, il faut que tout le monde soit au diapason, puis aligné, parce que ça dure 5 minutes cet échange-là, puis on le filme pendant 5 minutes, mais c'est pas un plan-séquence comme la caméra vole dans les airs, puis là, ça nous montre tout, puis là, c'est un grand jeu de comédien et de technicien. Non, tu sais, la caméra bouge pas plus que les intervenants. Là. C'est quand même excitant comment c'est mis, la caméra à l'épaule. Mais c'est ça, c'est dans la direction puis la manière aussi que eux, ils livrent la performance.
Oui, parce que les cadrages, la mise en scène est quand même très... très... comment dire ça? On laisse la place vraiment aux comédiens. Mm-hmm. Elle est subtile, finalement. Ouais, c'est pas un exercice de style, loin de là. On n'est pas comme un Brian De Palma, là, où on virevole tout. Donc,
J'ai pas vu beaucoup de films des frères Dardenne. Je n'avais juste vu un dernier, leur dernier qu'on avait couvert il y a quelques mois. Mais ça, on dit que c'est beaucoup là-dedans. Là, dans le fond, on est dans le socialiste. Il y a Stéphane Brisé en France qui, lui, travaille beaucoup... souvent avec Vincent Lindon, dans presque tous ses films. Puis c'est beaucoup sur justement le marché du travail, les lois en France, le syndicat, les grèves, c'est souvent cet accès-là. Fait qu'on le voit un petit peu là-dedans. Dardenne, c'est plus dans le social. Ici, on voit comme un peu tous ces pans-là. Ken Loach aussi, qui est dans la pauvreté, les problèmes, les difficultés économiques en Angleterre, fait qu'au Royaume-Uni. Fait que un peu d'inspiration. Fait que peut-être que écoute, Chevigny va être le nouveau défendeur un peu de ça au Québec. Je sais pas. On voit qu'il y avait un intérêt. Je sais pas s'il a travaillé sur des fermes ou des choses comme ça pour s'intéresser à ça.
Je sais pas d'où ce désir-là, cet intérêt-là est né, mais je pense qu'il était présent beaucoup dans ses courts-métrages. Donc c'est pour ça qu'il a réussi à avoir le financement aussi pour son premier long, là, parce que ses courts-métrages sont vraiment distingués, gagnant beaucoup de prix.
Mais Castellanos était dans certains de ses courts-métrages. Ouais, je pense que c'est des amis, là, eux autres.
Oui, c'est ça, des amis depuis de longue date. Puis effectivement, il était dans son dernier court-métrage. Mais tu vois, j'avais noté qu'en 2013, il avait réalisé Tala, qui était justement sur le programme des travailleurs étrangers, mais sur les aides ménagères philippines dans l'ouest de Montréal. Donc, c'est d'ailleurs ce court-métrage-là qui qui a mis la puce sur le travail agricole et tout ça. Il nous entendait toutes sortes de oui-dire, des choses qui se passaient qui n'étaient pas correctes. Puis ça lui a donné le goût d'explorer ce sujet-là.
Ouais, on n'a pas eu la chance de discuter avec
non,
l'équipe.
Ça aurait été
mais
le fun.
Si vous nous écoutez assez rapidement, comme le film prend l'affiche le 1er septembre, ils font une tournée là, de plusieurs cinémas, Montréal, je ne sais plus, là, le Rive-Sud, Rive-Nord, et ils vont venir à Québec, ils vont à Sherbrooke dans la première semaine. Fait que, c'est des, comme des projections bonifiées. Là, mm-hmm. Il y a chez Vigny, puis je pense que Castellanos est là tout le temps aussi. Okay. Puis avais-tu reconnu... tu sais, il y a quand même des comédiens assez établis là,
ouais.
qui jouent au travers
des
de son
visages connus. Oui,
ouais, c'est ça.
Et une voix aussi.
Ben, c'est ça, t'avais-tu c'est reconnu ça. La voix?
Il y a
il y a un appel... téléphonique en appel conférence.
Ouais.
Puis c'est Marc Beaupré qui fait la voix communément connue pour Marc Arcan,
bien
là,
sûr.
Dans la série noire et tout. Fait que j'avais vu son nom au générique à Mané. Okay. Il était associé. Puis là, on écoutait le film. Puis je sais, il est comme pas là. Quand est-ce qu'il va arriver? Quand est-ce qu'il va arriver? Puis là, Mané, il y a ça. Puis je dis, OK, c'est juste il est une voix hors champ un peu finalement. Ouais, c'est ça. Fait que une très belle surprise, Richelieu. Puis tu sais, je sais pas comment dire, que vous soyez dans le milieu agricole ou non, c'est pas là l'intérêt, c'est juste une cause sociale. On l'avait vu il y a quelques années, là, il y avait un journaliste qui avait enquêté, je vais pas faire de diffamation, je pense que c'était Savoura, pour les tomates, là, qui avait des maisons. Il avait enquêté sur les logements des travailleurs étrangers, puis c'était comme insalubre, puis c'était une affaire de... genre une salle de bain pour comme 22 personnes, puis tu sais, il faut que tout le monde soit prêt à travailler à 7h du matin, là, fait que ça a comme pas de sens, puis il y a de la moisissure, puis aucun tiroir pour ranger leurs affaires, des choses comme ça. Là.
Okay.
Ça avait vraiment fait mal à la compagnie, mais comme tout, j'imagine qu'après deux semaines, on n'en parlait plus, puis ça fait scandale deux jours, puis après ça, on passe à autre chose, puisque tout le monde dit, ben c'est outrageant, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça. Fait que, bref, c'est pas nouveau, mais c'est toujours bien de rouvrir le dialogue, puis ça peut éclairer. Tu sais. Fait que, au final, ils viennent faire des tâches que ça ne tente pas de faire ou qu'Amené le mentionne qu'on le ferait pas pour ce salaire-là. J'imagine que c'est des ententes que légales là, de payer les travailleurs étrangers un peu moins cher, parce que mais ils sont pas logés, nourris gratuitement non plus. Ça fait partie de leur salaire. Fait qu'ils repartent pas d'ici millionnaires.
Non, loin de là. Donc, Richelieu, à voir absolument un excellent film québécois.
Voilà. Allons-y pour ton coup de cœur, mon cher Patrick.
Merci beaucoup. Bottoms d'Emma Seligman.
Puis, moi aussi, j'ai beaucoup aimé ça, je vais dire tout de suite. Ça met en vedette des gens qu'on ne connaît pas encore. Mm-hmm. Rachel Sennott, Ayo Edebiri, qui fait beaucoup de voix, dont dans le dernier Tortue Ninja.
Ben oui, c'était April O'Neil.
En fait, c'est deux amis depuis toujours, depuis leur primaire. Que ça se donne aussi que les deux sont homosexuels, mais pas ensemble. Là. C'est juste deux meilleurs amis qui, là, vers la fin de leur high school, leur secondaire, veulent comme perdre leur virginité avec leur crush respectif.
Mm-hmm.
Et fait qu'ils vont décider de monter un club, un genre de fight club, un club de combat pour aider, oui, les femmes à s'émanciper puis à se défendre, mais surtout pour se dire « Hey, ça va être tellement hot qu'éventuellement, les filles vont avoir un crush pour nous.
Ouais. »
tu sais. Mais si tu comprends que ces deux un peu losers, là, sont quand même rejetés un peu de tout le monde, pas à cause de leur homosexualité, juste...
leur personnalité.
C'est ça, exact. Là, un petit peu trop weird. Fait qu'est-ce que les choses vont tourner aussi bien qu'elles le souhaitent? Peut-être que oui, peut-être que non. Écoute, c'est un peu un ovni. C'est pas du tout inaccessible, mais c'est comme un mélange entre des films d'élèves là, de sexualité de secondaire un peu à la American Pie. Il y a un petit côté Booksmart aussi de deux amies filles qui veulent devenir cool avant qu'il ne soit trop tard.
Superbad par les situations absurdes un peu qui peuvent se produire.
Ça. Mais moi, je trouvais même du... comment ça s'appelait? Donc, Not Another Teen Movie. Là, qui était, on se moque du football américain qui est une religion, ce qu'on voyait aussi un peu dans Varsity Blues, qui était un film de football, mais tu sais, les joueurs de foot ont des passe-droits. Au Québec, il y a la
série... Ils ont toujours leur uniforme en classe.
Ben, c'est ça. Comme ils font un peu ça. T'sais, ils n'ont même pas leur blouson. Ils ont leur uniforme, leurs épaulettes, les culottes là, avec les cuissards protecteurs puis tout. Que t'as dans totalement lissé. Là,
ouais, tu passes une bonne comparaison là, pour
le ton,
pour le Québec.
Par contre,
moins absurde.
Est un petit peu plus crédible. C'est-à-dire que totalement lissé avec... j'oublie son nom. Rosalie...
Vaillancourt.
Vaillancourt, c'est ça. Qui est comme...
parodie, qui est vraiment une parodie.
C'est ça, une parodie. On dit ce qu'on pense, on dit complètement des niaiseries, tout le temps des blagues de crottes de nez et d'affaires comme ça. T'sais. On est un peu plus sérieux, mais c'est un film de dialogue beaucoup. On ouais. dit des liners, des blagues, puis je pense que c'est toi qui as cherché un peu plus sur le background de tout ce beau monde-là. Justement.
Oui, écoute, ben juste revenir sur le scénario qui est vraiment très punchy, là, il y a vraiment de bons gags. Et porter attention à ce qui se passe beaucoup en arrière-plan.
Oui,
parce qu'un peu à la manière des films des frères Zucker, il y a toujours des petits trucs, des petits gags.
Les frères Zucker, c'est-tu les...
Airplane, Top Secret, et ouais, Naked okay. Gun, entre autres. Donc, ils avaient...
C'est là qu'il y a le plus d'absurde.
Ouais,
c'est ça. T'es quand même dans un milieu... éducationnel, là, milieu scolaire, puis tu sais, c'est comme les profs laissent aller.
Oui, puis tu sais, t'as même un joueur de foot dans une cage, là, dans une classe, là, on oui, comprend pas ça. Pourquoi, mais qui est juste là.
Le trop prisonnier. Violent.
Ouais, ouais. C'est ça. Donc, j'ai vraiment adoré. Puis oui, effectivement, donc, écoute, Emma Seligman, que je ne connaissais pas, en fait, c'est son premier, son deuxième long métrage, mais son premier long, c'était vraiment un petit film indépendant, là, Shiva Baby, que ça s'appelle, mais que je vais aller essayer de voir assurément. Puis tout ce beau monde-là, donc les deux comédiennes, Rachel Sennott et...
Ayo Edebiri.
Ayo Edebiri, donc se connaissent depuis l'université, avait une dizaine d'années. Puis d'ailleurs, Rachel Sennott avait joué dans des courts-métrages d'Emma Seligman à l'université et tout ça. Elle était du film Shiva Baby et elle est co-scénariste avec la réalisatrice du film Bottoms. Et ça sent l'écran parce que vraiment, entre les deux comédiennes, je crois qu'il y avait une bonne chimie.
Absolument.
Puis écoute, j'ai trouvé vraiment naturel et charismatique. Puis c'est pas surprenant, en fouillant, j'ai vu que c'était des humoristes aussi. Donc, ils baignent dans le monde de l'humour depuis une dizaine d'années. Ils ont même, les deux filles, eu un podcast ensemble sur Comedy Central, des trucs comme ça. Donc, ils se connaissent bien et ça paraît. Là.
Puis il y a un peu, à la fin du film, il y a quelques petits bloopers, des liners, des phrases drôles qui n'ont pas été gardées.
Restées jusqu'à la fin.
Ouais, mais tu comprends aussi que ça a été tourné un peu comme... je sais pas si Sandler fait ça, mais tu sais, Will Ferrell fait ça, ouais. Sandberg.
Carrie faisait ça aussi beaucoup.
Carrie?
Jim Carrey.
Ah, OK. Ouais. Okay. Ouais. Amy Schumer, Melissa McCarthy aussi, c'est comme, OK, le plan, c'est ça. Faut que tu dises une absurdité pour une comparaison, pour dire que t'es pas content, ben là, tu sais, on en pitch, puis on en filme 5, 6, 7, 8, puis au
montage,
des fois, on éclate de rire, des fois, on la refait, des fois, on la reprend pas, puis au montage, on voit c'est quoi la bonne intensité qu'on a de besoin, puis tu sais, fait que... Ouais, c'est une manière différente de tourner, mais qui, je trouve, meilleure pour la comédie que juste garder exactement ce qui a été écrit. Mais ça dépend du genre de film que tu fais, là, je pense.
Mais tu sais, je pense que quand t'as des performers comme ça, t'as pas le choix, là. Tu laisses les caméras aller, puis tu sais jamais quand la magie va arriver, tu sais, quand t'as une capacité d'improviser. Là.
J'ai oublié de noter, mais il y a un footballeur qui...
Marshall
joue...
Lynch, ben c'est oui, ça. Un ancien quarter, corps arrière. Des,
c'est un corps arrière, en
même,
plus?
C'était-tu un, non, c'est un porteur de ballon, je pense.
OK, peut-être un running back.
Pas un corps arrière.
Mais ouais, des...
Mais oui,
des
qui sort de nulle part. Ben, toi, tu m'avais dit qu'il avait déjà joué... Ben,
il a joué souvent son propre rôle. Il était dans 84 Brady, puis des affaires de même. Hein. Mais
il se débrouille bien, honnêtement.
Oui,
là,
c'est ça. Il joue le rôle d'un prof qui est vraiment pas le meilleur prof de l'année. Ouais. Là, t'sais, tatoué jusque dans le cou, il check des Playboys à l'école et tout. Mais c'est pas un pervers, c'est juste que ses propres problèmes.
Il est désintéressé, mettons, par son travail.
C'est ça. Puis, fait qu'eux, ils ont besoin d'un prof qui supervise l'activité pour qu'elle soit legit. Fait qu'ils vont le chercher en disant, ah, il va un peu s'en foutre, puis tout. Mais il est pas juste accessoire dans le sens qu'il livre des justement, là, des liners, puis des choses comme ça. Puis, il est crédible là, dans son rôle.
Donc, allez voir ça. Puis, écoute, même si l'angle queer du film, vous n'êtes pas super défaut vert à ça, là, c'est vraiment très drôle. Moi, ça faisait longtemps que j'avais ri comme ça devant une comédie. Puis, juste un petit mot aussi sur une des productrices du film, c'est quand même Elizabeth Banks, qui a livré, je pense, deux des films les plus audacieux dans la comédie cette année, avec Cocaine Bear aussi. Mm-hmm. Puis, je trouve qu'elle a une ligne directrice comme productrice, même si c'est pas tout à fait le même genre d'humour de Cocaine Bear, mais on sent qu'elle aime les ovnis, l'humour un peu décalé, des trucs qui prennent des chances. Donc bravo à elle, honnêtement, là, de financer des projets comme ça. Là.
Ça serait drôle si, puis elle avait dit, ben oui, on le fait.
On le fait, c'est ça, effectivement.
Ouais. Comme on sort un peu des conventions quand même. T'sais, reste le scénario, comme on dit, il va y avoir l'amitié ensemble, on peut le faire, amener l'amitié et challenger, on va être assez forte pour en revenir. Et, ça, c'est là. Là.
Ouais. C'est le ton.
Mais exactement, le ton, certains événements surprenants. Tu sais, elle monte un fight club, elles vont se donner des coups de poing dans la face. Puis,
oui.
Tu sais, ça. Fait que, c'est vraiment, vraiment bien fait. Moi, ça me rappelle l'effet Superbad, justement, mm-hmm. là, de qui est un film qui n'a pas eu un si gros succès au cinéma, mais qui est devenu vraiment iconique
ouais.
et qui a lancé aussi Michael Cera et Jonah Hill. Fait que je leur
souhaite. Oui, c'est une bonne comparaison. Si vous aimez les films de Judd Apatow, toute cette série-là au début des années, ben, mi-2000, peut-être plus, là, mm-hmm. avec Seth Rogen et toute cette gang-là, ça aurait pu être fait par eux là, il y a 15 ans. Là, on est exactement dans ce type d'humour-là, là, quand même.
Puis,
comédie vulgaire, mais intelligente et bien faite.
Voilà. Mm. C'est juste disponible en anglais, malheureusement, ouais, c'est pour Bottoms. Qui fait relation aussi, parce que les filles disent, on n'a rien à perdre, on est déjà au bas de la hiérarchie sociale. Fait mm-hmm. qu'il y a un peu ça. Je sais pas s'il y a le...
Parce que côté sexuel
côté
aussi.
Côté sexuel, mais c'est plus dans l'homosexualité masculine, d'habitude, le top et bottom. Mais en tout cas.
Ben, en même temps, les filles, ça se passe.
Je pense. Faites vos images, là, mais c'est pas ça qui est exploité là, ici. Là. Parce qu'on n'est pas tant sur la sexualité, non. C'est plus. Puis, tu sais, en plus, les filles qui sont amoureuses, elles sont même pas sûres si elles sont homosexuelles, mm-hmm. bisexuelles ou tu sais, c'est quoi. Fait qu'il y a un long shot là-dedans quand même.
Ouais.
Voilà pour Bottoms. Et sinon, dans un genre, on va laisser faire le côté perdre sa virginité, mais plutôt le côté se donner des coups de poing sur la gueule. The Equalizer 3, Le Justicier 3 au Québec de Antoine Fuqua avec Denzel Washington. Mm-hmm. Et qui, on retrouve aussi également Dakota Fanning en jeune agente de la CIA. Ces deux-là qui n'avaient pas tourné ensemble depuis quoi, Men on Fire.
Oui, c'est ça, en 2004, donc il y a 10 ans, c'est ça. Donc, 20 ans, c'est ça. Dakota Fanning, elle avait 10 ans au moment de ce film-là. Puis là, elle retrouve. Je trouve ça le fun.
Mais elle a un peu disparu. On a vu plus sa sœur dans les dernières années.
Qui a vraiment explosé. Dakota a plus tourné dans les petits films indépendants ici et là. Mais qui était une enfant vedette, très, très sollicitée dans les années 2000. Mais comme comédien, ça doit être le fun. T'es dans la peau de Denzel Washington où tu sais, t'as tourné avec un kid. Là, tu la retrouves comme adulte, ça doit être quand même le fun, là, sur le plateau et tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe-t-il avec notre Robert McCall?
OK, écoute, pour ceux qui ne savent pas trop c'est qui rapidement, c'est un ancien agent du CIA, ouais. On ne sait pas exactement ce qu'il faisait, mais il est doué en tabarouette. Puis lui, une des signatures du film, c'est que il dit genre, je m'a tué en 8 secondes, puis là, il passe à son timer, puis là, il pogne des crayons, puis des popsicles, puis n'importe quoi qui traîne, puis là, il tue tout le monde. Le film est assez. Ils ont toujours été assez graphiques là-dessus, là. Mm-hmm. Il y a du sang, on s'en cache pas. Fait que là, ce qui se passe, c'est jamais vraiment à suivre. Là. C'est le même personnage, puis il évolue, puis il vieillit, mais c'est pas comme John Wick, là, un long ennemi à suivre tranquillement. T'sais. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on comprend qu'au début, il pète la gueule, il tue des gens pour histoire qu'on découvrira plus tard. Là, dans, en tout cas, sauf qu'il va se faire blesser, malheureusement, dans cette affaire-là. Il va se faire recueillir, il est en Italie, dans un petit village en Sicile. Et là, pendant qu'il soigne ses blessures tranquillement, ben il va prendre goût à vivre dans ce petit village-là, côtier, très tranquille, où au début, il est vraiment un étranger, mais tranquillement, il va réussir à faire sa place. Et là, quand il sent que les villageois sont au prix de sont aux griffes d'une mafia qui les bardasse, qui prennent leur argent, etc., ben là, lui, le justicier va égaliser la donne en redonnant un coup de force à tous ces opprimés et en pétant la gueule à des mafieux. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu tues un mafieux? Ben, il y en a deux autres qui arrivent, puis jusqu'à temps que tu remontes de plus en plus haut.
Mm-hmm.
C'est la fin de la trilogie, qu'on dit, mais tout de suite après avoir dit ça, c'est ce qu'il avait annoncé qu'il allait en faire 3, blablabla. Puis là, Fuqua a dit, ben là, par contre, si Denzel veut en faire d'autres, moi, je suis partant, là.
Ouais.
toi, t'as pensé quoi du film?
Ben écoute,
t'as réécouté les deux récemment, en
plus. Ben, je dois avouer que je n'avais jamais écouté les deux premiers films avec Denzel. Par contre, plus jeune, j'avais déjà écouté un peu la série télé d'Equalizer qui date de 85.
C'est la première affaire, c'est une série télé. C'est pas un livre ou quelque chose.
Non, c'est ça. C'était vraiment une série télé. D'ailleurs, le Robert McCall en question, le justicier, était un Britannique de 60 ans, genre. Là, okay. Fait qu'on était vraiment dans un autre casting avec Denzel. Donc, oui, je me suis dit, ben là, tant qu'avoir le troisième, je vais réécouter les deux premiers. Puis honnêtement, j'ai été bien surpris. Je trouvais que c'était vraiment des bons petits films d'action très efficaces. Donc, je pense que c'est peut-être le meilleur des trois, honnêtement. Déjà, d'avoir la vue en Italie où l'histoire se déroule dans ce petit village-là, c'est super beau, c'est super intéressant. Ça fait un petit changement là, des deux premiers qui se déroulent à Boston. Puis on dirait qu'il a, peut-être c'est Fuqua qui a maturé, qui a changé un peu de ton, mais je trouvais que surtout le premier, là, des fois on tombait dans l'hyper-stylisation de plans, puis tout ça, dans les séquences d'action, là, on est un peu plus tranquille, puis je pense que c'est une bonne affaire. Le film est quand même un peu, je dirais pas, ben, peut-être lent un peu, on prend beaucoup de temps d'installer les choses, fait qu'il y a peut-être un peu moins d'action que les premiers, mais j'ai trouvé les scènes d'action encore plus spectaculaires, là, les mises en scène de combat... quelque shot qui rentre au poste. Là, qui,
ouais.
On n'avait pas vu ça avant. Là, fait qu'ils réussissent à innover, ce qui est dur avec tous les films d'action qui existent. Là.
Parce que son personnage, Sid McCall, est un peu comme un félin. Là. Comme il observe longtemps, ouais. il fait rien, puis à un moment donné, là, parce qu'il est toujours tout seul, il se fait pas vraiment aider. Fait qu'il attaque la nuit, tac, 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 un après l'autre dans le dos, etc.
Donc pour ma part, c'est une conclusion très satisfaisante. Donc si vous avez aimé les deux premiers, vous ne serez pas déçus du 3. Si vous n'avez pas vu les deux, voulez voir un bon film d'action, allez-y, vous serez pas trop perdu là, même si vous avez pas vu les deux premiers là.
Il y a, ouais, c'est ça, tu peux commencer par lui puis après écouter les autres. Ouais. Il y a un petit élément qui va faire ah ok c'était ça, mais c'est pas vraiment des personnages récurrents. Et d'habitude justement les films là qu'on dit souvent ah, c'est tellement beau où c'est tourné, allez-y pour les images. Là, c'est assez violent là, fait allez-y pas juste pour les images. Mais tu l'as soulevé, je trouve que c'est vraiment bien fait parce que comme il est pas juste de passage dans cette ville-là puis on fait deux trois beauty shots de plage là, c'est comme vu qu'il se repose là, qu'il est là pendant un mois, que lui plus sa convalescence progresse, plus il explore la ville, plus il est accepté. Tu vois ce feeling-là du petit village côtier italien que quand même beaucoup de gens savent parler anglais, étonnamment, là, mais quand même, puis il va se faire accepter de plus en plus, mais même s'il reste un solitaire. C'est pas non plus un film qui va virer en romance là, avec quelqu'un, quoi que ce soit. Tu sais, il a sa retraite professionnelle, il continue à faire la justice, mais tu vois peut-être qu'il se rapproche aussi d'un moment donné, je vais être trop vieux pour faire ça, mais il a encore des skills. Et c'est ça, c'est une série que je pensais jamais qu'elle avait du succès, mais elle a du succès.
Ouais, quand même, hein?
Les films, c'est parce qu'on a beaucoup en tête que tu sais, des films doivent faire 800 millions de dollars et tout, mais ça, c'est parce qu'on est vraiment dans un gros blockbuster qui coûte 175 à faire. Fait qu'à un moment donné, oui, tu fais plus d'argent, mais ton risque est plus haut. Ça, c'est des films qui coûtent... le premier, en 2014, avait coûté 55 millions à peu près. Le deuxième, 62, puis lui, on était à 70. Fait qu'on est toujours à peu près dans les mêmes chiffres, là, avec une inflation peut-être naturelle. Le premier, en 2014, avait rapporté 100 millions aux États, puis 190 mondial, puis il était sorti fin septembre. Le deuxième, on avait visé un petit peu plus, il est sorti 20 juillet, fait qu'on était plus dans la période blockbuster, avait remporté à peu près la même chose, 102 en Amérique, 190 total. Puis on s'attend à peu près au même résultat. Fait que des premiers week-ends à 30, 35 millions dans les meilleurs cas, fait qu'on saura qu'est-ce que ça va générer, mais... ça se maintient finalement. C'est pas des. C'est ça. C'est des succès. Là. Je veux dire, ils font quatre fois leur budget à peu près. Trois fois leur budget, mettons.
Fait oui, puis ces genres de films, ben à l'époque, quand il y avait encore des DVD, ça se louait sûrement assurément.
Oui, oui. D'après moi, ça s'achetait aussi c'est le ça, jour là. Que ça sort à 25$. Là.
Fait que ça doit...
Denzel est un icône.
Ben oui, c'est ça.
Une icône.
Quand même, aux États-Unis, un des acteurs les plus appréciés. Puis c'est quand même cinquième collaboration avec Fuqua.
OK, ben je me souviens de Training Day, qui est un excellent film. Puis c'était Men on Fire, c'était-tu eux aussi?
Non, c'était pas lui. Je pensais que c'était ça. Mais non, c'était de Magnificent Seven, qui a tourné en deux Equalizer. Ouais, remake du Western, qui était très bon. Moi, j'avais bien aimé ça, honnêtement.
J'ai pas vu l'original ou une énième version non plus. Puis mentionné aussi que le distributeur Sony Pictures ont fait une version Atmos là, avec les haut-parleurs au plafond, plat total, pour la version doublée au Québec également.
Okay.
Souvent, il l'a de plus en plus là, sur plein de films américains, mais quand on traduit, on le fait pas parce que ça coûte cher. Pour ce film-là, c'était fait comme pour Gran Turismo. Fait que ça vaut la peine si vous avez les extras et que vous êtes fan de cet enrobage sonore-là de quand. Il pète la gueule à tout le monde dans le noir. Hey, j'ai un jeu pour toi.
Ouais.
Denzel Washington, Dakota Fanning. T'es-tu capable de nommer d'autres comédiens, comédiennes qui ont des noms de villes ou d'états dans leur nom? Je l'ai recensé quelques-uns.
Ah ouais, OK. Tabarouette vide de même. Il doit avoir un Springfield.
Hey, peut-être, j'ai pas...
je lance ça de même. Vas-y.
Ben, il y a Dakota Johnson aussi. Dakota. Bryce Dallas Howard. Paris Hilton, c'est une grande comédienne. Il y a Brooklyn Decker, qui est dans Grace and Frankie, entre autres, qui joue un peu au cinéma. Austin Butler, la ville d'Austin au Texas. Orlando Bloom. J'ai Winona Ryder, là, celle-là, je ne l'ai pas trouvé tout seul. C'est une ville du Minnesota. Joaquin Phoenix, les Coyotes de Phoenix, c'est ça. Puis dans le plus international, de Cuba Gooding Jr. ou America Ferreira, justement. Voilà, c'était ça. Et vous à la maison, combien en avez-vous? Le premier, j'ai fait des recherches, mais Bryce Dallas Howard, c'est le premier que j'avais pensé, honnêtement. Joaquin Phoenix, je l'avais pas en tête, mais... Je sais pas, au Québec, il y en a-tu des...
Saint-Agapi.
Ouais, c'est ça, Saint-Michel. Faut que Saint quelque chose, ça peut t'aider. Mais tu sais, y a-tu quelqu'un qui s'appelle Régis Latuc ou Sylvie Châteauguay, je sais pas. Écoute, c'est le temps de changer, prénommer vos enfants comme ça. Berthier, Berthier Poliquin, tu sais, c'est pour Berthier sur mer. Dans les autres sorties, le drame d'anticipation, film d'action d'anticipation, de post-apocalyptique d'anticipation, c'est quand on s'imagine le futur et souvent c'est triste. Polaris, qui est un film canadien, un film de Première Nation et Canado. Un projet unique, le film est en langage inventé, mais il y a une narration soit en anglais, l'original c'est en anglais, sinon en français, mais une narration c'est pas très grave, tu vois pas les lèvres bouger, tu peux pas l'écouter dans la langue de ton choix. On est en 2144 sur la Terre, tout est gelé, c'est hivernal, c'est désolant, et il y a une fillette qui a été séparée de sa mère, qui est en fait une ours polaire, sa mère. Fait qu'il y a un petit côté peut-être Miyazaki là-dedans, mais là, c'est filmé un peu gory, qui va tenter de retrouver son chemin après avoir survécu à une horde d'espèces de maraudeurs sanguinaires. Un petit côté de Turbo Kid, là, mais sans l'humour, là, un peu, là, sans le deuxième degré. C'est que ce genre de film un peu gore, là, qu'on va décapiter des gens, il y a un peu à la Walking Dead, tu comprends qu'il y a une gang qui en motoneige, qui font la loi et tout. Là, un peu aussi... pas la même ambiance visuelle, mais mettons un monde sans terre. Là, tu sais. Quelques survivants, mais là, on est dans une planète gelée. C'est très bien acté de la jeune fille, parce que c'est une jeune fille en lead qui est de tous les plans. Moi, je trouve ça inventif d'avoir mis justement pas de langage. Peut-être que dans le futur, ça s'est perdu. Les gens sont tellement isolés. Il ne reste plus beaucoup de gens qu'on parle plus, on communique plus, on lit plus. Ça se trouve, c'est plus réaliste en soi. Fait qu'on communique en pointant puis par les gestes. Puis, tu sais, dans la production, c'est que ça fait un film universel aussi, comme ils disent. Des fois, peut-être le défaut, c'est qu'on aurait voulu pouvoir explorer les nouvelles relations un peu plus si on avait du dialogue pour partager ce que tu ressens. Là, faut juste que tu le démontres, tu le témoignes, tu le comprennes avec l'enchaînement des événements. C'est un film à budget modeste, là, quand même. Faut pas s'en cacher. C'est pas bien dire ça, mais c'est un film de genre. Si la gamme post-apocalyptique vous intéresse, poliment, je crois pas que ce soit le meilleur film de la semaine, mais je trouve que c'est une audace intéressante. Il y a de plus en plus de films, un peu de science-fiction comme ça, issus des Premières Nations, communautés autochtones. Fait que Kirsten Cartoux, qui est une cinéaste à surveiller, je pense quand même, pour la suite. Fait que voilà pour Polaris. Je pense qu'il avait été présenté à Fantasium, mais je ne suis pas sûr. Ça conclut ce balado-là. Il n'y a pas d'autres... c'est des petites semaines tranquilles. Il n'y a pas 8 films qui prennent l'affiche. En fait, dès la semaine prochaine, je pense qu'il y a genre 8 films qui recommencent la rentrée automnale. Il y a aussi plein de médias là, qui sortent leur top des films à surveiller. Écoute, on n'a pas listé un parce qu'on va être là à chaque semaine avec vous, mais il y a plusieurs films québécois avec le TIFF, avec le TIFF, souvent, les films sortent quand même justement septembre-octobre. La Berlinale, des fois, c'est un petit peu plus tard, mais il va commencer à en avoir. Il y a Cinémania qui sort qui est plus fin octobre. Fait que pour novembre-décembre, il y a souvent des films français autour de ça. Fait que c'est ça, l'été est fini. Les festivals de cinéma, l'engouement. Il y a eu aussi beaucoup d'annonces de tournages, de trucs comme ça, ben, pour le Québec, évidemment. Fait que je pense que fin 2023 et début 2024, même s'il y a quelques majors américains comme Dune qui ont été déplacés, va être très bon en cinéma. Fait que, bref, la semaine prochaine, hey, j'ai oublié de noter, en fait, qu'est-ce qu'il y avait. Le 8 septembre, il y a la nonne, la religieuse 2.
Ben oui, c'est le début, l'envoi de la saison des films d'horreur pour Halloween, là, qui vont être déferlantes.
Là, en plus, je pense qu'il y aura, avec Exorcist qui s'est devancé d'une semaine, il n'y aura pas tant de break là, pour les fans d'horreur. Soyez disponibles tous les vendredis soirs, je pense. Prenez-vous un soir par semaine, vous y allez à chaque semaine.
Prévoyez-vous un budget cinéma.
C'est ça, la nonne décadence, l'Exorcist.
Exorcist, Night at Freddy's.
Ouais, au Québec, sanguinaire, vampire humaniste, cherche suicidaire, qu'on s'entend. Et sûrement qu'on oublie deux, trois là-dedans, indie qui vont popper, qui va en avoir deux par semaine. Fait que bref, on vous parle de ça et bien plus la semaine prochaine. Pour nous contacter, comme d'habitude, écrivez-nous au balado au singulier à commercialmonciné.ca et procurez-vous gratuitement le magazine Monciné qui, la nouvelle édition là, avec Magali Lépine-Blondeau, doit arriver sur les kiosques d'une journée à l'autre. C'est peut-être déjà le cas. Il est également disponible en version numérique. Ça aussi, ça prend quelques jours, mais début de la première semaine de septembre, ça va être accessible. Visitez le monciné.ca. pour plus d'informations.
Sur ce, on vous souhaite le bon cinéma, du bon popcorn, et puis si jamais vous partez à un Fight Club, faites-le donc pour les bonnes raisons.